Bonjour. Je vais faire un peu de place. Voilà, avec les nouvelles chaises, il faut bien se recaler sur l'axe de la salle. Le milieu, il n'est pas là, hein, le milieu, il est là. Donc, je vois que vous placez bien. J'avais peur que la salle penche parce que tout le monde est du même côté, mais c'est bien réparti. Voilà. Vous le savez sans doute, vous le savez, j'espère. Nous sommes actuellement dans une série de prédications, une série dans la grande série de l'année, mais une série de prédications que nous avons intitulée « La communauté du roi ». Le roi, c'est Jésus-Christ, la communauté du roi, c'est l'Église. Et en cette fin d'année scolaire, le but de cette série, c'est de voir ce que Jésus attend de son Église. Comment il attend que nous vivions. Et cette série, elle est relativement courte. Hein, 3 chapitres du livre de la première épître aux Corinthiens, chapitres 12, 13 et 14. Alors, j'ai un peu triché parce qu'il y a 2 semaines, j'ai fait un prologue en prêchant sur 1 Corinthiens 11, mais vraiment centré sur 12, 13, 14 qui sont une unité. Et quand on lit ce texte, on se rend bien compte que il y a une unité dans ce texte. Ce n'est pas juste des textes qui se succèdent et hop, on change de chapitre, on change de sujet. Et là, on est sur le point central, le texte central de cette section 12, 13, 14. Je propose de lire le texte. 1 Corinthiens, chapitre 13, ou plutôt, on va commencer au dernier verset du chapitre 12, et terminé au premier verset du chapitre 14. Le dernier verset du chapitre 12, Philippe l'a lu la semaine dernière. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre même mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Rechercher l'amour. Aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à la prophétie. Nous arrêtons là la lecture. Michaël prendra la suite avec le chapitre 14. Nous, nous nous concentrons sur ce chapitre 13. Et puis, pour commencer, j'aimerais faire un petit cours de littérature biblique. Ce texte, il est connu. On l'entend même souvent lors des mariages. Je ne serais pas étonné que vous l'ayez déjà entendu. Sur un texte aussi connu, je pense qu'on peut prendre le temps de regarder un peu comment il est structuré, parce que la structure vient nous dire quelque chose sur le sens du texte, et en particulier sur un texte qui a une dimension poétique comme celui-ci, la structure fait partie du message. Et donc, ce texte est construit en chiasme. Un chiasme, ça vient de la lettre grecque « qui est une lettre en croix, et ça fait que les idées sont croisées, première idée, première idée. Mais les auteurs antiques ont poussé ça assez loin avec des imbrications dans les imbrications, et ici, on voit que c'est ce qu'on a. On a une première introduction, aspirer au don une voix par excellence, qui est symétrique à rechercher l'amour, aspirer au don. Donc voilà, là on a une première symétrie. Ensuite, à l'intérieur du texte, on voit la supériorité de l'amour. Sans lui, ce que je fais ne sert à rien. Et à la fin du texte encore, la supériorité de l'amour, parce que lui ne meurt jamais. Vous êtes dans le noir maintenant. Et au milieu, on a la description de l'amour. Et si je dis que c'est au milieu, ce n'est pas un hasard. C'est parce que dans cette construction en chiasme, le but des auteurs, c'est de mettre le plus important au milieu. C'est pour ça que c'est important de repérer la structure biblique. Et là, vous avez vraiment la chose qui se repère le plus facilement, le chiasme. Et ça vient vous dire, voilà le plus important. Donc, on rentre dans le sujet, on va au plus important et on ressort par le même chemin que là où on est entré. De quel amour parlons-nous? Je le disais, ce texte, 1 Corinthiens 13, est souvent lu, voire prêché dans les cérémonies de mariage. Quand on mentionne l'amour, on pense naturellement à l'amour le plus fort, le plus submergent qu'on puisse connaître. L'amour qui attire un homme vers une femme et réciproquement qui les pousse à s'engager pour la vie dans le mariage. Cet amour qui nous fait pousser des ailes. Celui dont on croit qu'il est plus fort que tout. Celui qu'on voudrait conserver, qu'on voudrait qu'il ne s'effrite jamais. Pour parler de cet amour, je vous donne rendez-vous le 8 juillet. Il devrait être mentionné, je pense, lors de la cérémonie de mariage d'Anaël et Raphaël. Mais ce n'est pas de cet amour dont parle Paul. Si on se remplace dans le contexte de cette série de trois chapitres, on vient de parler du corps, de sa diversité, mais surtout de son unité. Philippe a bien insister là-dessus la semaine dernière, si Paul part de l'Église comme un corps, c'est pour insister sur son unité. L'Église est comme un corps humain, avec des membres ayant tous des fonctions différentes. Et comme dans un corps, nous avons ces différentes fonctions, nous avons besoin que ces différentes fonctions soient remplies pour que le corps fonctionne. Et cette métaphore du corps, c'est une métaphore classique. Les Grecs pouvaient voir la cité comme un corps, Tout le monde a sa place. Que vous soyez un noble ou un esclave, vous avez tous votre place pour faire tourner la cité. C'est une métaphore qui motive, qui donne un sens à l'engagement. Mais Paul apporte plus avec cette métaphore, il va plus loin. Pour lui, dans le corps, il n'y a pas de supériorité. Tous les membres sont nécessaires au corps. Et c'est surtout l'unité qu'il met en avant. Un membre ne peut vivre sans le corps. Et à cette église de Corinthe qui est en proie à des divisions, où il y a des clans, Paul dit, vous êtes unis. Et ce n'est pas un choix de votre part, c'est Dieu qui vous a unis dans un corps. Si vous en voulez plus sur le sujet, la prédication donnée par Philippe la semaine dernière est disponible sur le site. Et Paul finissait par ce verset 31 que nous avons lu. Aspirez aux dons les meilleurs, je vais vous montrer la voie par excellence. Le chapitre 13, c'est la voie par excellence pour vivre l'unité dans ce corps de diversité aux membres équipés de dons si variés. L'amour. L'amour entre les frères et sœurs rassemblés dans une même église. C'est de ça dont nous parlons, de cet amour. Ensuite, vous vous souvenez du chiasme, après l'introduction-conclusion, il y a deux sections qui parlent de la supériorité de l'amour. Dieu donne deux raisons pour lesquelles l'amour est supérieur. Et la première, c'est que sans l'amour, rien de ce qu'on fait n'a de sens. S'il n'y a pas d'amour entre nous, rien de ce qu'on fait dans l'Église n'a de sens. Est-ce que vous avez déjà vu un corps ? Je veux parler du corps d'une personne décédée. Par exemple, au moment de la levée du corps et de sa mise en bière. Je suis frappé de voir, dans ces cas-là, il manque quelque chose. Ce n'est pas la personne que nous avons connue. Sans le souffle de vie, elle ne ressemble plus à cette personne que nous avons aimée. Et ce que dit Paul ici, ça me fait penser à cela. Sans amour, nos actions... Ce qu'on fait ensemble, c'est comme un cadavre sans vie. Et Paul donne trois exemples. Le premier exemple, c'est parler les langues des hommes et celles des anges. Peut-être vous ne savez pas trop de quoi il parle. Certaines personnes parmi nous, ici, issues d'églises charismatiques, connaissent cette pratique. Et d'autres ne l'ont peut-être jamais vue. Il s'agit, sous l'influence de l'Esprit-Saint, de parler, prier, chanter dans une langue qui n'est pas la sienne, une langue étrangère ou une langue inconnue que personne ne comprend. Apparemment, vu la place que ça prend dans l'Épître, beaucoup de personnes le faisaient à Corinthe et en tiraient une grande fierté. Mais sans amour les uns pour les autres, c'est que du bruit. Ça n'a aucune valeur. Deuxième exemple, la prophétie. Prophétiser dans la Bible, c'est communiquer des messages de Dieu aux hommes. Philippe a fait du teasing la semaine dernière. Il a dit que j'allais expliquer que la prophétie, c'est la prédication. En fait, ce n'est pas ce chapitre qui le montre, mais c'est plutôt le suivant, le chapitre 14, celui sur lequel Michaël prêchera la semaine prochaine. Mais si vous êtes curieux, que vous ne voulez pas attendre, vous pouvez lire le chapitre 14, en particulier les versets 3, 6, 13, quand on a en tête que la prophétie parle de prédication, eh bien, ces versets, ce texte, on le comprend différemment et je crois qu'on le comprend mieux. Mais bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine dernière, nous avons lu dans le chapitre 12 que Dieu a mis dans le corps, premièrement, les dons de la parole, dans l'ordre. Apôtres, prophètes, enseignants, et ensuite viennent les autres dons. Eh bien, dit Paul dans le chapitre 13, même pour ces dons, les premiers, les plus importants, les plus structurants pour l'Église, sans amour, ils ne sont rien. Et pareil aussi pour le don, pour la générosité. Aussi bien donner nos biens, nos possessions, que se donner soi-même, donner sa vie dans le service. Les d'autres traductions, je livrerai mon corps pour en tirer fierté, je suis prêt à me donner tout entier. Même en donnant tout, en se donnant tout entier, sans amour, ça ne sert à rien. Ainsi, Paul balaye tout, aussi bien la spiritualité, le parler en langue, la prière, la louange, que la parole, prophétie, prédication, la connaissance emmagasinée, ni même le service, le don matériel ou le don de ma personne jusqu'au bout de mes forces, sans amour, ça ne sert à rien. Et on pourrait aller plus loin. On pourrait décliner à d'autres secteurs de notre Église, l'accueil, la jeunesse, la musique, le beau bâtiment, sans amour. Je prends deux exemples sur des sujets qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'ai investi du temps. Si je monte une organisation parfaite, que je trouve des responsables pour tous les services, des cahiers, que j'écris des cahiers des charges précis répondant à tous les cas, mais que je n'ai pas l'amour, je ne mets en place qu'une machine bien huilée qui tourne toute seule. Si je communique une vision d'Église claire, comprise par tous, si nous nous mettons tous d'accord sur les sujets théologiques secondaires comme le baptême, le positionnement politique du chrétien ou le statut de membre, mais que nous n'avons pas l'amour, aucun intérêt. Deuxième raison pour laquelle l'amour est supérieur, l'amour ne meurt jamais. L'amour dure toujours. Les chrétiens vivent dans l'espérance que le monde changera. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ et ce jour-là, tout changera. La mort sera vaincue, le péché sera vaincu, les morts ressusciteront, seront jugés et nous vivrons dans la présence de Jésus. Forcément, si on se projette, ça va changer pas mal de choses sur notre quotidien. C'est un peu comme quand on est sorti du confinement. On pouvait se retrouver, faire des zooms avec ses amis, avec ses voisins, mais le jour où on a pu ressortir, quel intérêt de faire un zoom avec son voisin quand on peut juste aller prendre une bière avec lui dans son jardin ? Bien, c'est pareil pour nous. Tout ce que nous faisons dans notre foi, tout ce que nous vivons avec Dieu, même quand c'est bien, eh ben c'est un mode dégradé comparé à ce que nous connaîtrons. Vous imaginez ? On se réveille, on descend à la table du petit déjeuner et Jésus lui-même est là, nous demandant si on a bien dormi. Plus besoin de prière, plus besoin de prédication. Et encore une fois, on peut aller plus loin, adapter à notre Église ce bâtiment dont nous sommes si fiers, pour lequel nous avons prié, nous avons donné, nous avons travaillé pendant plus de 3 ans. Cet outil qui nous permet aujourd'hui d'être visible, d'accueillir dans de bonnes conditions, il passera. Notre vision d'Église, des disciples qui font des disciples, ce qui nous permet d'unir notre activité dans une action à la fois vers ceux qui ne viennent pas à l'Église, comme vers ceux qui y sont, il cessera. Tous les services que nous faisons, le CBJ, la musique, le café d'accueil, l'équipe d'accueil, la sono vidéo, le ménage, le conseil, que sais-je, ils cesseront. mais l'amour. L'amour, lui, ne mourra pas. Vous pouvez y aller, vous pouvez investir, l'amour durera. Et Paul de conclure, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ces trois choses, ce sont les points cardinaux de la vie chrétienne, obligatoires à tous les chrétiens. Quand on lit les épîtres du Nouveau Testament, ils insistent régulièrement sur la nécessité de les avoir. Alors que, par ailleurs, ils ne reprochent jamais l'absence de tel ou tel don. C'est vraiment ça qui est obligatoire, la foi, l'espérance, l'amour. Comme l'écrivent les commentateurs Robertson et Plummer, on peut être un bon chrétien sans les langues et la prophétie, mais on ne peut pas être un bon chrétien sans la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des trois, c'est l'amour. Recherchez donc l'amour. Recherchons donc l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour ? Comment aimer ? Je parlais tout à l'heure de cet amour d'amoureux, cet amour qu'on trouve si fort au début d'une relation. Quand je me suis marié avec Diane, je croyais mon amour insubmersible. Ça, c'était avant que je découvre les défauts de Diane. Et même si les siens sont bien moins nombreux que les miens, je me suis vite rendu compte qu'il faudrait apprendre à l'aimer. C'est pareil pour nous. L'amour s'apprend. Au fur et à mesure de notre croissance chrétienne, au fur et à mesure de notre croissance relationnelle avec telle sœur ou tel frère, notre amour grandit. Et pour aider ses lecteurs à grandir dans l'amour, au centre de son texte, Paul décrit l'amour. Il le décrit avec une succession de courtes phrases que nous allons regarder, mais avant de plonger dedans, il est intéressant de noter qu'il y a presque autant de phrases positives, l'amour est ceci ou cela, cette fois, presque autant que des phrases négatives. L'amour n'est pas telle ou telle chose. 8 fois. C'est que l'amour, c'est tout autant éviter de faire ce qui le détruit que de faire ce qui le construit. Alors allons-y. Plongeons dans le cœur du texte. Comment aimer ? Petit avertissement, dans la Bible, quand il y a des listes comme ça, c'est le genre de texte sur lesquels les traducteurs hésitent le plus et où il peut y avoir le plus de différences entre les différentes traductions. Mais ne soyez pas troublés par ça et toutes ces touches permettent d'avoir une idée de ce qu'est l'amour. L'amour est patient. C'est-à-dire que il est capable d'attendre. Attendre que l'autre change. Attendre qu'il comprenne mon point de vue. Attendre qu'il arrive au même point que moi. Attendre qu'il soit prêt. L'amour est plein de bonté. Il cherche le bien de l'autre. Et il ne faut pas confondre la bonté avec la gentillesse. La gentillesse, c'est faire ce que l'autre veut, et un peu comme pour s'en débarrasser, trouver un arrangement, je suis gentil. La bonté, c'est plus que ça. La bonté, c'est comme la bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre. Même parfois, quand le bien de l'autre, c'est quelque chose qu'il n'a pas vu, c'est quelque chose qu'il ne demande pas. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Et dans le contexte de cet épître aux Corinthiens, on peut penser aux dons qu'il voulait avoir. Il voulait avoir les meilleurs dons, la meilleure place, être les plus importants. Donc du coup, quand je regarde mon voisin qui a tel ou tel don, je peux être envieux. C'est sa place que j'aimerais avoir. J'aimerais faire comme lui. Mais cette attitude n'a pas sa place dans l'Église. L'amour n'est pas envieux de la place de l'autre. Il s'en réjouit. Et il accepte sa place que Dieu lui donne. L'amour ne se vante pas. Se vanter, c'est mettre en avant ses qualités, qu'elles soient exagérées ou réelles. Et cela ne sert pas l'amour. Même quand ce sont des qualités réelles, il y a un risque d'écraser l'autre en l'impressionnant parce qu'on est bâle. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. J'ai oublié de le mettre. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son importance. Les épîtres sont remplis de cette injonction de Paul. Soumettez-vous les uns aux autres. Non pas votre importance, mais les autres. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Dans la traduction que j'ai lue, ne fait rien de malhonnête. L'amour respecte les convenances, ce qui est accepté socialement. Ça pourrait paraître secondaire par rapport à d'autres points plus forts qu'on a cités dans la description de Paul. Et pourtant, ne pas choquer les autres, entrer dans les convenances admises par égard pour eux, c'est une preuve d'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il s'agit de se faire reculer du premier plan, ne pas chercher à être le plus important. Il ne s'agit pas forcément de se sacrifier pour faire passer toujours les autres avant soi. Il s'agit de faire passer l'amour avant soi. L'amour, les relations entre nous, avant nous-mêmes. L'amour ne s'irrite pas. L'irritation est une forme de colère, mais pas une colère franche telle qu'on peut en avoir face à quelque chose qui est mauvais et qu'on veut combattre. L'irritation, c'est un agacement parce que l'autre fait quelque chose qui nous énerve. Ne pas s'irriter, c'est accepter la différence, accepter que l'autre ne fasse pas pareil que moi. Y compris pour des choses qui comptent pour moi. L'amour ne soupçonne pas le mal. Parfois, il y a des choses qui sont faites et qu'on ne comprend pas. Il y a une tendance humaine dans ces cas-là où on ne comprend pas à croire que l'autre nous en veut, qu'il le fait contre nous, qu'il nous veut du mal. Ne pas soupçonner le mal, c'est se dire il doit y avoir une raison. Je peux demander à l'autre une explication pour ce comportement que je ne comprends pas et qui me heurte peut-être. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Celle-là, c'est marrant. C'est un peu une évidence. Comment pourrait-on se réjouir de l'injustice si on est moralement bien constitué? On peut se réjouir de l'injustice parce que des fois, nous en sommes bénéficiaires. Parce que des fois, une partie de l'information, une partie des faits n'est pas connue et une situation injuste, un jugement erroné se produit. Et quand nous en bénéficions ou quand quelqu'un que nous aimons en bénéficie, nous pouvons avoir envie de la tolérer. C'est un problème résolu. L'injustice peut représenter un raccourci, mais l'amour n'accepte pas l'injustice. Au contraire, il se réjouit de la vérité et même si cette vérité me malmène, ou si elle malmène celui que j'aime. L'amour se réjouit de la vérité. Parce que la vérité, c'est une occasion de demander pardon et c'est une occasion de recevoir le pardon et d'être rétabli. Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité est toujours bonne, même si dire la vérité ne dispense pas de le dire avec douceur. Ensuite, il y a une succession de, je dirais, une succession de tout. L'amour ne se contente pas de pardonner, croire, espérer, supporter, mais l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Voilà qui fait peut-être un peu peur. Nous vivons dans un monde où on nous parle d'abus, on est largement informé sur les abus. L'apôtre invite-t-il à tout laisser passer, tout pardonner, croire, espérer, supporter, même quand les circonstances, quand les faits crient au danger? Je ne le crois pas. Je ne le crois d'autant moins que juste avant, Paul a bien posé que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais qu'il se réjouit de la vérité. Alors, que faut-il pardonner, croire, espérer, supporter? Je me souviens de la question dans les évangiles, la question de Pierre à Jésus. Combien de fois est-ce que je dois pardonner? 7 fois, a demandé Pierre. Si mon frère revient encore et encore avec la même faute et me demande encore pardon, quand est-ce que je peux lui dire « 7 fois, c'est fini » ? Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus ? Jamais. En fait, il a dit 77 fois, 7 fois, mais c'est un peu trop long à calculer. Moi, j'ai retenu jamais. Quand ton frère vient vers toi, tu le pardonnes. Tu le crois. Et tu lui donnes une nouvelle chance. Tu espères qu'il y parviendra. Et tu supportes qu'il tâtonne. Tu le supportes avec patience. Il n'y a pas de limite au pardon que tu accordes. Un mot sur le pardon. Plusieurs m'ont entendu récemment dire qu'il ne faut pas confondre pardon et confiance. Et je répète ce point, j'insiste dessus. Il ne faut pas confondre pardon et confiance. Le pardon, c'est quelque chose que Jésus commande et que je dois accorder. Mais la confiance, elle se gagne. La confiance, elle n'est pas due. Jésus a dit que si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut lui faire confiance pour ce qui est important. Et peut-être qu'on a là une clé, justement, pour réagir face à l'abus. Le pardon, oui. Mais la confiance, échaudée, je ne la donne pas. Voilà qui est un peu grave, hein, comme texte, comme ton. C'est un programme exigeant que cette voie par excellence que nous montre Pierre. L'amour voie par excellence n'est pas un amour au rabais, mes amis. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme on dit qu'on tombe amoureux. C'est un chemin. Un chemin qui appelle une progression. Et si vous vous souvenez du dessin de notre série sur cette communauté du roi, il y a différentes personnes, toutes les couleurs. Est-ce que Simon, est-ce que tu peux juste passer directement au premier, à la première diapositive ? J'aimerais qu'on revoie ce dessin. Merci. Il y a des gens de toutes les couleurs et au-dessus, la colombe de l'esprit. Jésus nous a envoyé son esprit pour nous transformer et pour nous faire grandir dans cet amour. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on est appelé à vivre l'exigence de la voie qui surpasse tout. C'est se laisser conduire par l'esprit dans ce que Jésus nous demande. À ces Corinthiens qui sont divisés et qui pensent à leur importance, à leur place dans l'Église, à leur renommée, Paul parle du corps. Ils sont unis, dépendants les uns des autres. Ils ne sont rien les uns sans les autres. Cette unité, ils doivent la recevoir. Et Paul enfonce le clou. Le plus important, c'est l'amour. C'est là que se joue l'unité. Non pas, l'unité, elle ne se joue pas dans la complémentarité. C'est parce que tu as quelque chose qui me manque que je suis uni à toi. L'unité, elle se joue dans l'amour. L'amour qu'il faut développer les uns entre les autres. Cet amour qui nous lie. Cet amour sans lequel ce que nous faisons ne sert à rien. Cet amour sur lequel nous pouvons investir sans compter, car il durera toujours, même après le retour de Christ. Alors, aimons-nous. Aimons-nous. C'est le plus important. Recherchez l'amour, écrit Paul. Et si c'est intégré, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Aspirez aussi au don spirituel. Prions.